Gérande Mag, le magazine de mon département, numéro 121, janvier, février, mars 2018. En une de ce numéro, quel avenir pour le logement social, aux pages 13 à 17. En une également, près de chez vous, page 4, valoriser le rôle de parent. Tête de Gironde, page 24, Thomas Bouda, sportif millésimé, et patrimoine, page 28, phare au pluriel de Gironde. Édito de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde. Chaque projet que nous lançons au département vise à lutter contre les inégalités en Gironde.
Embouteillage, bouchons, engorgement, pour beaucoup de Girondines et de Girondins, ce sont chaque jour des dizaines de minutes de perdu dans les transports en commun, en voiture, matin et soir. La fin de l'année 2017 a donné lieu à beaucoup de débats à ce propos, et une chose est sûre, il n'y a pas de miracle ou de réponse unique. Pour améliorer la situation, plusieurs solutions se présentent à nous. Amélioration des routes, covoiturage, parking relais, renforcement des fréquences en transport en commun et notamment du train, vélo, télétravail. Il nous faudra aussi mieux répartir les emplois dans tout le département, en périphérie de la métropole, dans les territoires ruraux. Les villes d'équilibre, comme par exemple Lesparre, Blaye, Coutras, Castillon, Créon, La Réole, Langon, doivent être renforcées pour retrouver leur rôle de centralité. Commerce, services publics, habitat, bassin d'emploi. La ville et la campagne sont complémentaires, ne les opposons pas. Main-d'œuvre, eau potable, matières premières, c'est bien la ruralité qui apporte à la ville ses ressources. Chaque projet que nous lançons au département vise à lutter contre les inégalités en Gironde, à soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. La Gironde est une terre d'équilibre, cultivons-les, ils sont l'avenir de notre département. Je vous adresse, au nom de l'ensemble des élus et agents du Conseil départemental de la Gironde, une très bonne nouvelle année, que 2018 soit solidaire et généreuse.
Au sommaire de ce numéro, près de chez vous, page 3 à 11, avec le Libournais, page 3, le Médoc, page 4, la Haute-Gironde, page 5, le Bassin, page 6, Haut-de-Garonne, page 7, Bordeaux, page 8, Graves, page 9, Sud-Gironde, page 10, Porte du Médoc, page 11. Ensuite, Force solidaire, des pages 12 à 23, Budget, 2018, page 12, Quel avenir pour le logement social, page 13, L'eau met la Gironde au défi, page 18, Plan Oméga, page 20, Insertion, l'enjeu alimentaire, page 22. Enfin, dernière partie, à la découverte, page 24 à 31, Tête de Gironde, page 24, Histoire, page 26, Patrimoine, page 28, Producteur de Gironde, page 30. Ce numéro se termine par les expressions politiques, page 32-33, et l'agenda, page 34-35. Ça se passe près de chez vous. Libournais, du chantier routier à l'espace protégé. La nécessaire déviation routière de Coutras, inaugurée en 2013, a entraîné la modification de zones humides et d'habitats qui abritent des espèces protégées. Le département s'est alors engagé pour contribuer à rééquilibrer la biodiversité, se portant acquéreur des sites pour leur donner une nouvelle dimension. Récit.
Il s'agissait bien de contrecarrer les effets du chantier routier et de recréer l'écosystème. Le département a alors acquis deux sites, les Bardes d'Abzac et la gravière de l'Ovira à Coutras. Cette acquisition a permis la naissance d'un nouvel espace naturel sensible, ENS. La zone humide d'Abzac, tout d'abord, a fait l'objet d'aménagements conséquents. Des marges ont été creusées afin d'augmenter le caractère humide de la zone, explique Mathieu Molière de l'association Sistude Nature, installée au Hayan et à laquelle a été confié le plan de gestion. Une passe à anguille doit aider à la survie et au développement d'une espèce en danger critique d'extinction. Le site peut désormais être conforté avec la plantation de haies, l'extension d'un pâturage bovin, l'entretien, le suivi et l'étude d'amphibiens tels les grenouilles ou les salamandres, mais aussi les libellules et demoiselles. Espace tout neuf à visiter. Une opération plus récente a été engagée en 2016 sur la gravière de l'Ovira. Pour gérer cette zone humide de près de 4 hectares, le département s'est entouré de 3 structures associatives, Sistud Nature, la Fédération des associations de pêche de la Gironde et Îles et Drône, association de réinsertion implantée à Porcher. Nous avons complètement nettoyé le site avec l'éradication des espèces végétales invasives, la pose de clôture et la mise en place de panneaux pour indiquer la nature du site, espace naturel sensible. Détaille Jean-Philippe Burjade, directeur d'Îles et Drône. Cet hiver, des mares seront creusées pour les amphibiens, un corridor aquatique aménagé entre le site et l'île. Pour réaliser ces expertises écologiques, Sistud Nature s'est appuyé sur l'expérience de la Fédération de pêche de la Gironde, implantée à Béchac et Caillot. Ces études ont permis notamment de déceler une petite population de Sistud d'Europe, rapporte Mathieu Molière. Leur site d'hivernation semble se trouver sur un plan d'eau situé en dehors de la propriété départementale et la zone de ponte a été identifiée au sein d'une prairie à proximité de cette propriété. Fort de ce constat, le département a acquis en 2017 l'ensemble de ces secteurs afin d'assurer la pérennité de la population des tortues d'eau. D'ici 2020, une fois les objectifs atteints, l'ouverture au public permettra une découverte ludique de cet espace naturel, doté alors d'un ponton de pêche. Petite note, une Sistud d'Europe est une tortue d'eau douce.
Sistud Nature, site internet sistud.org. Îles et Drône, site internet isleetdrone.fr. Fédération des associations de pêche de la Gironde, site internet pêche33.com. Plus d'infos sur les espaces naturels de Gironde sur le site gironde.fr/nature.
En chiffres, déviation de Coutras. Projet global, investissement près de 13 millions d'euros, incluant 1 million destiné à la préservation du milieu naturel.
13 octobre. Les élus ont décidé de soutenir la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire en milieu rural à Marensin. Une enveloppe de 80 000 euros contribuera à la naissance du site.
MEDOC, valoriser le rôle de parent. Le coup de pouce de l'APPEM, APEM, Association pour la parentalité et l'enfance en MEDOC. Lutter contre l'isolement de certaines familles, accompagner les parents qui se posent des questions, c'est sur ces objectifs qu'est née l'APEM. Elle propose de nombreux rendez-vous aux parents de jeunes enfants, ainsi qu'aux enfants scolarisés sur le territoire.
Depuis 2007, l'APEM travaille sur le terrain de l'accompagnement des parents dans leur rôle éducatif. L'association agit en coopération avec la MDSI de l'ESPAR. Le département, la CAF et la MSA la soutiennent financièrement. Il ne s'agit pas du tout de leur dire comment être parents, mais de les conforter dans leur mission d'éducation, de leur redonner confiance et de les laisser s'exprimer et d'échanger avec d'autres parents, explique sa présidente Myriam Mundo. L'objectif est aussi de retisser le lien parent-enfant. Nous confortons leurs propres compétences dans le respect de leur vécu et aussi de leur culture. L'APEM propose ainsi chaque semaine des rendez-vous à Gaillan-en-Médoc, Graillan et l'hôpital, et mensuellement à Ourtin. Sans jugement, sans tabou. Rares sont les structures offrant un échange sur la parentalité. Sans jugement, sans tabou, nous sommes écoutés, rapporte Mélanie G., maman qui fréquente l'APEM. Mais c'est également un lieu de socialisation pour les parents, bien sûr, qui peuvent par la suite se voir en dehors, mais également pour nos enfants. Là où les établissements d'accueil, comme les crèches, manquent cruellement, en Ormédoc, l'enfant a des difficultés à rencontrer ses pères. Cet accueil gratuit, ouvert à tous, permet aux parents, grâce aux animations proposées, jeux et goûters partagés, de se rassurer dans leur rôle éducatif et aux enfants de se préparer à l'entrée en crèche ou à l'école, par exemple. L'APEM est également très investie auprès des enfants de 6 à 10 ans, qu'elle reçoit deux fois par semaine à l'ESPAR pour un accompagnement à la scolarité ludique et originale. C'est l'occasion pour l'enfant de prendre confiance en lui et de revisiter les apprentissages qu'il découvre avec son enseignant, par le biais de jeux et d'activités culturelles, en toute sérénité, car sans objectif de résultat. Mais ce n'est ni l'école après l'école, ni du soutien scolaire, ni un accueil de loisirs. Ce n'est pas non plus l'occasion pour l'enfant de faire ses devoirs, insistent ses animatrices Lydie Milleret et Ophélia Faucon. Originalité depuis 2016, l'accueil ne se fait plus dans les écoles Maurice Beaugency et Pierre et Marie Curie, mais dans une résidence pour personnes âgées. Les enfants y sont attendus chaque semaine et nous souhaitons encourager ces liens intergénérationnels si précieux. Parenthèse enchantée, après l'école, temps de goûter, temps de partage. Cette année, les enfants qui participent à l'accompagnement à la scolarité découvriront aussi la musique et ses instruments à travers les temps, les cultures. Chaque année, ce sont près de 60 familles, soit 120 à 150 personnes qui rappellent l'utilité de l'APEM en territoire médocain. Mais le non-renouvellement des contrats aidés fragilise l'association pourtant largement sollicitée.
Lieu de rencontre, 0-6 ans, tous les jeudis à Gaillan en Médoc, le mercredi à Graillan et l'hôpital, le premier mardi de chaque mois à Hourtin. Accompagnement à la scolarité, 6-10 ans, lundi et mardi, 16h-17h30 à l'ESPAR. 9 novembre, inauguration des nouveaux locaux de l'EHPAD foyer occupationnel et d'hébergement de Beausège à Saint-Laurent-Médoc. Dans sa volonté d'innovation sociale, le département accompagne l'expérimentation du foyer qui accueille sur un même site des parents âgés et leurs enfants handicapés. Il apporte à la construction de l'EHPAD Beausège un financement de 5,8 millions d'euros.
Haute-Gironde, accueil d'urgence, une réussite partenariale. Comment mettre en sécurité des personnes âgées dépendantes lorsque leur conjoint ou conjointe est victime d'un accident ou temporairement empêché? Loin des dysfonctionnements vécus sur le territoire il y a quelques années, un dispositif innovant est né, l'accueil d'urgence médico-social.
Auparavant, une personne âgée, seule et ou en situation de précarité, confrontée à un événement soudain, hospitalisation de conjoint aidant, tempête, ne permettant pas de la maintenir chez elle, pouvait se retrouver aux urgences faute de situation adaptée, alors que son état ne nécessitait pas de prise en charge médicale. L'idée a germé de construire une procédure d'accueil d'urgence parmi les partenaires du territoire de Haute-Gironde, déjà habitués à travailler ensemble, explique Gilles Fournier, directeur de l'EHPAD Le Mont-des-Landes à Saint-Savin. Il existe toujours un lit de libre dans un EHPAD, qu'il soit privé, public ou associatif. La MAIA, la AMSADHG et les EHPAD ont donc décidé de se réunir pour développer cet accueil d'urgence et mutualiser leurs ressources soutenues par le département et l'ARS. La convention valorise l'innovation sociale de ce type d'accueil qui repose sur l'implication de partenaires hospitaliers, publics, associatifs, privés, où la seule préoccupation est de répondre à la demande d'une personne âgée, quelle que soit sa situation personnelle et ses ressources financières. En ce sens, Gilles Fournier souligne « Nous nous sommes tous engagés à pratiquer un tarif unique correspondant au tarif journalier de l'aide sociale départementale en vigueur afin de rendre cet accueil accessible à tous et équitable. Des séjours à durée déterminée. Ce dispositif nécessite le cumul obligatoire des 4 critères : l'âge, le lieu, la santé et l'urgence médico-sociale. Exclusivement formulées par des professionnels. Ces demandes, insiste Gilles Fournier, sont bien un hébergement d'urgence, faisant l'objet d'un contrat de séjour à durée déterminée. Dès l'admission, tous se mobilisent pour trouver une solution de sortie pérenne. Dans ce même objectif d'accessibilité financière et de solutions de proximité, le département prévoit la possibilité pour les établissements qui ne le sont pas d'être habilités à l'aide sociale et d'accueillir ainsi des résidents avec peu de ressources. Les résultats sont très positifs au niveau des équipes soignantes. Cela renvoie aux fondamentaux de la profession de soignant et renforce la cohésion des équipes. Preuve supplémentaire d'une action qui porte ses fruits, l'intérêt porté par d'autres territoires tels que le bassin d'Arcachon, le Libournais ou les territoires sud et est de la Charente-Maritime, 17, et le sud de la Vienne, 86.
Pour information, AMSADHG, Association de maintien et de soins à domicile en Haute-Gironde. EHPAD, Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. ARS, Agence régionale de santé.
En chiffres, 5 situations d'urgence en 2015, période d'expérimentation, 12 en 2016 et 6 situations d'urgence enregistrées au 30 octobre 2017. 8 EHPAD partenaires du dispositif. EHPAD Le Mont des Landes, 8 avenue Maurice Lacoste, 33 920 Saint-Savin, 05 57 94 05 05. EHPAD La Chênée, 6 avenue André Lafont, 33 820 Saint-Cyr-sur-Gironde, 05 57 32 99 32. Toute l'info grand âge sur gironde.fr/personnes-âgées. 13 octobre. Le département conforte son soutien à l'équipement et à l'aménagement des écoles dans les communes du Nord-Gironde. 683 300 euros sont ainsi alloués pour les équipements numériques, l'acquisition de mobilier et différents travaux. Gauriaguet, Peugeard, Saint-Christoly-de-Blaye et Saint-Genès-de-Fronsac sont particulièrement concernés.
Le bassin, la teste, le port aux 66 bateaux. Le département a soutenu un ambitieux projet d'aménagement du port de la teste de Buch et de ses accès. L'inauguration a eu lieu en septembre dernier. De la façade portuaire aux accès, le site a fait peau neuve.
Dévolu à l'amarrage des bateaux traditionnels, pinasses, plates en bois et bacs à voile, le nouveau ponton flottant permet de rassembler en un lieu unique les joyaux typiques du bassin. Long de 226 mètres, il accueille 66 bateaux, des embarcations désormais mises en valeur par cette réalisation. Ces aménagements permettent d'offrir une jolie vitrine aux visiteurs, pointe Jean Touzeau, président du syndicat mixte des ports et vice-président du conseil départemental. Mais ils améliorent également l'accessibilité aux navires. C'est un gain en confort et en sécurité pour les conservateurs du patrimoine naval local. Cette réhabilitation a ainsi fait l'objet d'échanges avec les professionnels tout au long du projet. Économie d'énergie et fluidité du trafic. Très ouvert sur la ville, la façade portuaire de la Teste de Buch a amélioré son image. Le ponton est accessible par 2 passerelles mobiles ancrées en tête du perret. Elles ont été positionnées sur l'esplanade piétonne en cours d'aménagement par la mairie. Par ailleurs, un éclairage public innovant baptisé Lumiroute participe à cet embellissement. Associant des LED à un revêtement de chaussée claire, il est à la fois économe en énergie et apporte une ambiance douce et naturelle au site. Dans la continuité, l'accès routier au port, qui draine un trafic très intense de 13 000 véhicules par jour en moyenne, a été également aménagé. Pour plus de souplesse, Les deux carrefours à feu tricolore ont été supprimés et deux giratoires ont été créés sur la départementale 650, ce qui permet de répartir les priorités et de gagner en fluidité. Dans ce secteur stratégique, les collectivités ont donc travaillé main dans la main afin de préserver l'authenticité du site, tout en l'adaptant à l'évolution de l'activité.
En chiffres, 504 173 euros, c'est le montant financé par le département pour l'aménagement des pontons flottants. 531 536 euros, c'est le montant financé par le département pour la reprise des chaussées et l'éclairage. 13 octobre, le département confirme son soutien aux communes du littoral qui procèdent à un nettoyage manuel de leurs plages. Cet accompagnement s'est élevé à plus de 125 000 euros pour le bassin l'an dernier.
Hauts-de-Garonne, à l'atelier-restaurant, des jeunes découvrent l'art culinaire. L'atelier-restaurant accueille dans ses murs l'exposition de la plasticienne culinaire Enora Lallet, qui a conçu les œuvres présentes, photographiées par Julie Bruyer.
Le restaurant d'application géré par l'association laïque du Prado depuis 2012 à ce nom permet à des jeunes de 15 à 21 ans, accompagnés par une équipe éducative et technique, de s'exercer au métier de la cuisine et du service dans un environnement bienveillant et protecteur. Une activité qui est conduite dans le cadre d'un service éducatif polyvalent d'activités de jour, CEPAGE. Le CEPAGE est une maison d'enfants à caractère social, MEX, liée à la politique de protection de l'enfance du département. Enora Lallet a travaillé en collaboration étroite avec l'équipe éducative du CEPAGE pour réaliser cette exposition pleine d'originalité où les adolescentes apparaissent avec des coiffes recouvertes de pompons, de vidés peints et collés, de franges issues du vert des poireaux, d'épluchures de bananes découpées ou derrière un masque d'artichaut en épluchures de carottes ou de concombres tissés. Faire ressortir les compétences. Les jeunes ont à la fois posé mais aussi participé à la conception des œuvres. Enora Lallet a réalisé 8 tableaux qui ont été photographiés par Julie Bruyer, explique Frédéric Masreveri, directeur du CEPAGE. L'idée de départ était de pouvoir utiliser certaines parties délaissées de légumes ou de fruits pour en faire des œuvres d'art. Je ne souhaitais pas que les œuvres soient éphémères, mais qu'elles perdurent dans le temps. Cette exposition a aussi généré beaucoup de curiosité. Pour Hélène Caron, éducatrice technique à l'atelier d'application, ce projet artistique valorise les jeunes qui y ont participé. Cela leur permet aussi d'apprendre à communiquer avec les clients et d'adopter un langage adapté. On travaille avant tout sur l'estime de soi. Ce projet a fait ressortir les compétences des jeunes. Pour vous faire une idée, n'hésitez pas à venir déjeuner dans ce restaurant ouvert à l'art et à l'échange. Précisons que les œuvres d'Enora Lallet, réalisées avec l'équipe du CEPAGE, illustre la carte de vœux du département pour l'année 2018.
Un restaurant d'application ou restaurant pédagogique permet aux apprentis et aux étudiants de mettre en pratique leur formation. Ouvert pendant la période scolaire, il accueille le public sur réservation. L'atelier restaurant, du lundi au vendredi de 12h à 13h30, 70-72 avenue Jean Jaurès, 33 150 Senon, 05 56 72 53 90. 13 octobre, les élus confirment leur soutien aux équipements sportifs du canton de Créon dans le cadre du pacte territorial des Hauts-de-Garonne. La CDC de l'Entre-deux-Mers bénéficie de 186 000 euros pour le terrain sportif de Sénac, la création de plateaux sportifs de Cursan, la restructuration du foyer rural de Salbeuf et l'aménagement de locaux à Tresse.
Bordeaux, maison de la solidarité et de l'insertion, opération portes ouvertes. Prenez date, au mois de mars, les 9 maisons de la solidarité et de l'insertion de Bordeaux organisent une journée portes ouvertes, l'occasion de faire mieux connaître leur métier qui s'inscrivent dans le droit fil des missions de solidarité du département.
Ce matin de novembre, David est venu accompagner sa fille Élise, 16 ans, à la Maison de la solidarité et de l'insertion, MDSI, de Bordeaux-Saint-Jean. Élise est suivie dans le cadre d'une mesure éducative, à la demande de sa mère, suite à des problèmes de comportement. Elle doit rencontrer l'éducatrice qui l'accompagne depuis 18 mois. L'éducatrice l'aide à établir de meilleurs rapports avec son entourage. Élise peut l'appeler lorsqu'elle a une difficulté, explique David. À côté de David et Élise, dans la salle d'attente, Julia sert d'interprète à deux jeunes femmes bulgares. Elles sont arrivées il y a 15 jours et ont besoin d'être accompagnées pour demander des papiers, trouver un travail, un logement, explique Julia. Chaque jour, à la MDSI de Bordeaux-Saint-Jean, comme dans les autres maisons de la solidarité et de l'insertion du département, des habitants du quartier viennent avec leurs difficultés et leurs questions. Éducateurs spécialisés, assistants de service social, secrétaires médico-social, médecins puéricultrices, sages-femmes, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux chargés d'insertion, conseillers en économie sociale et familiale et conseillers conjugaux sont là pour les aider. Informer, écouter, orienter. Si la protection maternelle et infantile, PMI, tient une place primordiale dans ces maisons, les questions liées au logement, à l'insertion professionnelle, sont parmi les premiers sujets de préoccupation des usagers des MDSI. Les professionnels des MDSI sont polyvalents. Notre rôle est d'informer et soutenir les personnes sur leurs droits, d'écouter et d'orienter vers d'autres structures si nécessaire, explique Mireille Félix, responsable de la MDSI Saint-Jean. Être au plus près des habitants est d'ailleurs un des objectifs premiers des 36 MDSI du territoire girondin regroupés au sein des 9 pôles territoriaux de solidarité, PTS. Et c'est pour se faire mieux connaître que les MDSI de Bordeaux organiseront en mars prochain une journée portes ouvertes. Mireille Félix participe avec le groupe communication du PTS de Bordeaux à l'organisation de l'événement. Nous voulons proposer un moment convivial pour promouvoir la solidarité et expliquer notre travail. Rendez-vous est pris.
MDSI Bordeaux-Saint-Jean, 15 rue Belle Étoile, 33800 Bordeaux, 05 56 92 27 92, gironde.fr/MDSI-Bordeaux.
Pour vivre pleinement la journée portes ouvertes du mois de mars, retrouvez la MDSI de Bordeaux la plus proche de chez vous sur gironde.fr/MDSI-Bordeaux.
13 octobre. Pour soutenir les personnes les plus exclues, les élus du département renforcent à hauteur de 83 900 euros leur contribution aux structures qui permettent en particulier aux bénéficiaires du RSA d'avoir un accompagnement socio-professionnel, de pouvoir faire garder leurs enfants ou de bénéficier d'une formation.
GRAVE, ADIE, ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique. De nouvelles perspectives pour l'emploi. En 2017, l'association ADIE a permis la création d'environ 200 emplois chaque mois en Nouvelle-Aquitaine. Depuis sa création en 1989, elle a contribué à la création de 143 000 nouvelles entreprises en France. L'antenne ADIE de Talence contribue à ce mouvement.
L'ADIE, créateur d'activités depuis 1989, reconnue d'utilité publique, l'association ADIE œuvre pour le retour à l'emploi de milliers de personnes en France et en Europe grâce au financement par microcrédit. Sa mission principale, l'insertion professionnelle par la création d'activités. Le principe est simple. Les porteurs de projets s'adressent à l'ADIE et reçoivent l'écoute et l'aide d'un conseiller spécialisé. Interface entre les banques et les entrepreneurs, l'ADIE met alors en place des microcrédits, jusqu'à 10 000 euros, pour le démarrage ou le développement de l'activité. Le suivi du porteur de projet est ensuite assuré par le conseiller ADI et des bénévoles. La priorité est de venir en aide aux personnes en situation précaire, souhaitant retrouver un emploi, le plus souvent par la création d'une micro-entreprise. Et ça marche. En Gironde, l'ADI a octroyé plus de 5000 microcrédits depuis 1993. La force des bénévoles. Aujourd'hui en Gironde, et grâce au soutien financier du département, l'ADI fonctionne avec une douzaine de salariés permanents et 50 bénévoles répartis entre les antennes de Talence, nouvellement ouvertes, et Lormont. Ces derniers jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs et permettent d'assurer la pérennité des activités créées. 84% des entrepreneurs financés sont réinsérés. Des petites entreprises aidées qui se distinguent par leur originalité, citons entre autres exemples, en Gironde, Sophie, architecte d'intérieur à Talence, Laurent, restaurateur à Andernos, Laetitia, dans le secteur du prêt-à-porter à Cadillac, ou encore Adrien, qui entretient des vélos électriques à Lormont. Le bénévolat s'inscrit dans la durée pour permettre à l'entrepreneur d'être suivi jusqu'à 3 ans après le début de son activité. Le recrutement de nouveaux volontaires s'effectue toute l'année en contactant l'association ou via les journées portes ouvertes annuelles du mois de septembre. En bref, si vous croyez en l'avenir du travail, devenez bénévole. Retrouvez aussi les équipes de l'association lors des prochains rendez-vous de l'ADI, du 5 au 9 février. Toutes les rencontres ici. rdv-adi.org.
ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Résidence à Trium, 3 rue Chateaubriand, entrée A, 33400 Talence. Téléphone 09 69 32 81 10. ADI.org. 13 octobre. Dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, le département attribue une subvention de 124 000 euros à la commune de Villeneuve-d'Ornon pour acquérir 126 200 m² de terrain situé dans la zone de préemption de la vallée de l'eau blanche.
Sud Gironde, médiathèque de la Réole, lecture et culture à votre porte. Dans la ville d'art et d'histoire, sous les voûtes du prieuré des Bénédictins, la médiathèque a ouvert ses portes le 1er décembre. Grâce à la force d'un réseau intercommunal et de biblio.gironde, des milliers de documents s'offrent désormais à tous.
Vulgariser la culture, c'est l'objectif de Fatia Habaei, responsable du réseau de lecture publique de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, CDC. Les médiathèques de la Réole et Gironde-sur-Drôte, tête de ce réseau, jouent la complémentarité. L'une cible davantage le patrimoine et la jeunesse, l'autre la musique et le multimédia. Viennent ensuite les médiathèques de proximité, Auros, Montségur, Loupiac de la Réole, Saint-Hilaire de la Noaille, Saint-Pierre d'Aurillac et les bibliothèques Point Relais, Fonté, Noaillac, Savignac, Morizès, Montgauzy et Caudreau. Au temps du numérique, ces bibliothèques n'ont rien à voir avec celles du passé. Elles sont un lieu de vie et de rencontre pour s'instruire et se divertir, renchérit Justine Charenton-Massé, responsable du site Réolais. Livres et théâtres japonais. Partager des outils est un bel exemple d'entente intercommunale. Avec une proximité entre les bibliothèques, la culture est à deux pas. Quel que soit son lieu de résidence, sur ou hors du territoire, l'inscription vaut pour l'ensemble du réseau. Via Internet, on peut aussi réserver un ouvrage. Autre atout, la compétence et la polyvalence des 10 salariés. Notre travail ne se limite pas à délivrer des ouvrages, mais à offrir une aide globale. Conseils, usage informatique. Il nous arrive même de donner des représentations de Kamishibai, théâtre japonais, ou de couvrir des livres scolaires, explique Justine. Les pages d'une nouvelle histoire. Il aura fallu 10 ans pour conduire ce projet ambitieux porté par les élus du territoire. Fatiha conclut. Grâce aux aides du département, de la région, de la DRAC, en soutien du budget de la CDC, nous écrivons les pages d'une nouvelle histoire, avec un réseau valorisant la modernité, le partage et la proximité. Un grand merci également à biblio.gironde pour son soutien infaillible. Ensemble, nous sommes fiers de vulgariser la culture.
Lire et lire, faites ses 10 ans. Voilà une décennie que biblio.gironde invite les jeunes lecteurs à voter pour leur livre préféré par le biais de Lire et lire. Chaque année, 2000 jeunes de 70 bibliothèques parmi les 240 du réseau partenaire biblio-gironde échangent, débattent, confrontent leurs jugements et se rendent aux urnes afin d'y déposer leur bulletin secret. Une belle initiative qui incite à la lecture et récompense les participants par un chèque lire de 10 euros à dépenser dans les librairies. Nous souhaitons de longues décennies à lire et lire. Bénévoles, ça vous dit ? Vous aimez la culture, le partage ? Rejoignez le réseau de lecture publique lecture.public@reolaisensudgironde.fr, mediatech.reolaisensudgironde.fr. Médiathèque au pluriel. 15 novembre, la première pierre de la réhabilitation du collège Ozone à Bazas est posée. Ce vaste chantier va permettre la reconstruction de l'ensemble de l'établissement qui peut accueillir 700 élèves. Les travaux qui mobilisent 16 millions devraient s'achever à l'automne 2018.
Porte du Médoc, j'adore ce que vous faites. À Eysines, les chemins d'Arnaud Poujol et de la maison de production théâtrale « J'adore ce que vous faites » se sont maintes fois croisés pour des projets artistiques singuliers et participatifs. Retour sur cette belle expérience.
Arnaud Poujol et Dominique Elgorski semblent poursuivre une discussion de longue haleine. Débutée autour du projet artistique « Fils et filles de Caron », créé en 2016, leur complicité déborde désormais sur tous les thèmes liés à l'autonomie, au libre choix et au projet de vie. Et pour cause. L'une est handicapée en fauteuil et l'autre metteur en scène. Ensemble, ils remontent le fil d'une véritable aventure artistique sans pleurnicherie. C'est à Eysines que tout commence. Arnaud Poujol y vit et au fil du temps, grâce à son travail d'auteur, fréquente les habitants au point d'avoir envie d'en rencontrer d'autres ailleurs dans le département. Le metteur en scène a puisé sur son territoire la matière de son très insolite Orphée aveugle. Le texte a surgi à partir de rencontres avec un groupe de septuagénaires non-voyantes, explique-t-il. Et à partir de là, j'ai dû réviser pas mal de mes idées sur le handicap. Présentée au théâtre Jean Villard en 2012, cette pièce se déroulait dans une obscurité totale, afin que les spectateurs partagent la même fragilité que les 5 personnages. Ambitieux, le projet est alors soutenu par la maison de production théâtrale « J'adore ce que vous faites ». La structure a l'habitude du travail artistique participatif, puisqu'en 2013, c'est elle aussi qui porte « Ensemble, c'est tout ». Ce projet de collecte de la parole des Eysinais, restitué ensuite sous la forme d'un vide-grenier de la mémoire. Déambulation participative. De ces expériences sont nées plusieurs autres pièces ancrées sur de nouveaux territoires. Fils et filles de Caron, née en 2016, est portée par la même équipe et présentée au Rocher de Palmer à ce nom. Il s'agit d'une déambulation dans les coulisses de la salle de spectacle, à la rencontre de 8 personnes en situation de handicap. Pour nous, c'était un défi très positif, explique Dominique Elgorski. Cela m'a poussé par ricochet à refaire des choses que je ne faisais plus, comme aller au cinéma, au théâtre ou à des concerts. Désormais, un nouveau projet est en cours avec l'hôpital de Cadillac.
Le bureau de production « J'adore ce que vous faites » est une structure de 3 personnes qui propose aux artistes de gérer à leur place tout le back-office de leur spectacle. Recherche de financement, coordination, communication, suivi budgétaire, etc. pour permettre aux auteurs de se concentrer sur leur cœur de métier. J'adore ce que vous faites en un seul mot, .net. 13 octobre, sur le canton des Portes du Médoc, pour soutenir les ménages à faibles ressources, le département finance la réalisation de 39 logements sociaux au Pian-Médoc, 120 000 euros, et de 4 logements à Blanquefort, 12 000 euros.
Force solidaire, 1,51 milliard d'euros pour les Girondins et la Gironde. Dans un climat encore marqué par des incertitudes sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales, la Gironde garde le cap. Tout en répondant à ses obligations liées aux solidarités humaines et territoriales, le département entend ne pas baisser la garde sur le terrain des investissements sans augmenter le taux de l'impôt foncier bâti qu'il perçoit. Le budget 2018 est placé sous le signe d'un engagement réaffirmé et rigoureux. Pour 100 euros de budget,
72 euros affectés aux solidarités individuelles, 13 euros affectés aux services collectifs, 15 euros affectés à l'investissement au profit de l'économie locale.
Où vont les 224,2 millions d'euros d'investissement ?
Collège, 60 millions d'euros. Infrastructure, 41,4 millions d'euros. Espace naturel sensible, 12,4 millions d'euros. Aide aux communes, 31,1 millions d'euros. Logement, 9,2 millions d'euros. Numérique, 6,2 millions d'euros. Divers, dont SDIS et EHPAD, 18,7 millions d'euros. Bâtiments, dont bâtiments sociaux, 45,2 millions d'euros.
Plus 0%.
En 2018, pas d'augmentation du taux de l'impôt foncier bâti.
Point de vue de Jean-Marie Darmian, vice-président chargé des finances et des fonds européens.
La Gironde accueille désormais 18 000 habitants de plus chaque année. Cet essor démographique doit être pris en compte quand le département prépare son budget. Même si nous avons pu compter sur un effort marqué de l'immobilier et sur une pause relative dans l'effort que nous demande l'État pour contribuer à résorber le déficit de la nation, nous devons prudence garder. Tout en favorisant les investissements dont la Gironde a besoin, nous avons le devoir de maîtriser notre endettement et de maintenir notre capacité d'épargne. Cette année, les Girondins le mesureront. Nous consentons un très gros effort d'investissement en faveur des collèges et du numérique pour que chacun, partout en Gironde, ait accès à une éducation de qualité et à Internet en haut débit.
Habitat, quel avenir pour le logement social ? En septembre dernier, le gouvernement rendait publique sa stratégie logement. Coup de massue, il décidait une baisse significative des aides personnalisées au logement, APL, de l'ordre de 50 à 80 euros, à la charge exclusive des bailleurs sociaux. Aux organismes HLM de se débrouiller pour opérer des diminutions de loyers équivalentes, avec cette hausse de charges directes, c'est tout le secteur du logement social qui est mis en péril, sa gestion comme ses programmes de construction. Le 23 novembre, une table ronde a réuni autour du président Jean-Luc Glaize les représentants des bailleurs, des locataires et des usagers pour débattre d'une question cruciale pour un grand nombre de Girondins.
La décision du gouvernement de réduire les APL a provoqué une onde de choc en Gironde où chaque année, 5000 nouveaux logements sociaux sont agréés. Cette production représente 637 millions investis par les bailleurs sociaux, dont très directement 473 millions d'euros de travaux. Sachant que notre département accueille 18 000 nouveaux habitants chaque année et que 70% des Girondins peuvent prétendre à un habitat social, 80 à 85% en zone rurale. Il est facile d'imaginer ce que peut représenter le coup d'arrêt d'un tel engagement. De fait, l'État conduit les organismes HLM à réduire de 85% les fonds qu'ils consacrent à la construction neuve, mais aussi à l'entretien et à la maintenance du parc social. En Gironde, ce sont annuellement 33 millions d'euros de pertes, équivalent à la moitié des fonds propres investis par les bailleurs sociaux. Conséquence, ce sont 4000 emplois directs et indirects qui sont menacés.
Une question essentielle.
Le logement correspond pour le département à des missions fondamentales de solidarité. Cette question du logement est essentielle dans les parcours de vie. Ce qui a été décidé au niveau national touche directement les Girondins confrontés à l'accès à l'habitat, de plus en plus loin de leur lieu de travail à cause du coût. Le loyer représente une part majeure du budget des ménages. Les listes d'attente pour accéder à un logement sont déjà longues. Si les bailleurs sociaux devaient se désengager faute de moyens, la précarité s'emballerait, les personnes les plus fragiles seraient mises en grand danger, proie idéale pour les marchands de sommeil.
Moins 60 euros par mois d'APL par foyer en Gironde, qu'est-ce que cela représente?
Moins de 110 millions d'euros de commandes de travaux. 4000 emplois directs ou indirects menacés. 2355 logements neufs impactés. Entretien ou maintenance de 55 734 logements impactés, 60% du parc social. Moins 33,4 millions d'euros par an des recettes des bailleurs sociaux.
Invité à débattre, Jean Castin, responsable du logement social à l'association Consommation Logement Cadre de Vie, CLCV, défendant les intérêts des locataires, n'a pas caché une vive colère.
La diminution des loyers ne doit pas dissimuler aux locataires une situation véritablement catastrophique. On manque cruellement de logements et l'empilage des lois successives a traité de façon caricaturale cette question. La baisse des APL, c'est le coup de grâce et la destruction annoncée de la mixité sociale. Nous risquons d'assister à une ghettoïsation d'un grand nombre de résidences où se regrouperont les plus précaires des lieux de vie où les bailleurs sociaux ne pourront plus exercer correctement leur mission d'entretien et de gestion.
Sigrid Monnier, directrice générale de Gironde Habitat, Office public départemental de l'Habitat, explique.
Suivant l'évolution des ressources des ménages, la loi nous demande de loger plus de ménages en difficulté. En quelques années, nos obligations sont passées de 25% à 43% des familles qui emménagent. Au-delà des ressources, la mixité est aussi une affaire de génération, de culture, de mode de vie, de rapport au travail. Nous continuerons à entretenir nos résidences et à développer l'offre, mais les 9 millions d'euros en moins par an suite à la décision de l'État nous contraignent à remodeler l'organisation et le schéma économique. C'est la certitude d'avoir à vendre plus de logements et à transformer l'accueil et le contact avec le public. Je ne voudrais pas que du logement pour tous, on nous emmène vers le logement réservé à ceux qui ne peuvent plus habiter ailleurs.
Un amortisseur social, directeur de la conférence HLM de la Gironde, fédérant les différents bailleurs et directeur de l'association régionale HLM Arosha, A-R-O-S-H-A, Emmanuel Emousse enfonce le clou.
Il ne faut pas oublier que le logement est un amortisseur social. Bien se loger, ou se loger tout court, c'est une préoccupation permanente pour un grand nombre de gens, de familles. Il y a en Gironde, comme en Nouvelle-Aquitaine, un logement social mis ou remis en location pour 4 demandes enregistrées. Il est regrettable d'assister à des décisions qui répondent à des effets de communication de court terme et aux conséquences non maîtrisées, là où il faut imaginer des réponses sur la durée à une question qui est complexe. Tous les acteurs du territoire engagés autour du logement, et en particulier du logement social, doivent être associés pour imaginer des solutions à cette situation.
Nathalie Duviella, directrice et chef de projet précarité énergétique au CREAC, Centre Régional d'Éco-Énergétique d'Aquitaine, partage les inquiétudes des autres participants à la table ronde.
La précarité énergétique touche énormément de ménages, et il faut préciser que le parc locatif privé est en plus mauvais état que le parc public. Problème de chauffage, de renouvellement de l'air, mais aussi dans la construction même de certains bâtiments très techniques et trop étanches, Ce sont des situations que nous rencontrons très souvent. La précarisation des locataires s'accompagne aussi de comportements à risque pour la santé.
Cette page est illustrée de dessins ainsi légendés.
Les inégalités se creusent.
De plus en plus de gens peuvent prétendre à un logement social.
Quelles conditions d'accès ? Il faut préserver la mixité.
N'abandonnons pas une majorité grandissante.
Une classe moyenne basse enrichit des bailleurs privés.
Faire le dos rond ou agir ?
Passer le constat, que faire ? La question a été posée aux participants à cette table ronde consacrée au logement social, car un bras de fer durable avec l'État n'est guère envisageable. L'inertie ne semble pas non plus d'actualité. Donc, Jean Castin, CLCV, tranche net. Faire le dos rond, cela nous mènerait tout droit dans le mur. Il faut se battre avec nos moyens contre la seule logique financière. Le logement social a fini par acquérir une très bonne image. Les politiques ont la responsabilité de tout faire pour qu'il ne se dégrade pas. Emmanuel Hémous, à Rocha, tempère. Nous pouvons nous interroger sur les priorités de l'État, même si chacun comprend qu'il faut réduire les déficits publics. Il faut interroger l'aménagement du territoire et mettre en place de nouvelles politiques qui exigent une mise en lien des moyens des bailleurs. Sigrid Monnier, Gironde Habitat, complète. Oui, nous sommes appelés à faire des choix et à mettre en commun des moyens avec l'objectif de lutter pour maintenir la qualité de service qui nous est reconnue. Un point de vue qui emporte aussi l'aval de Nathalie Duviella, CREAC. Nous ne devons pas lâcher la main des plus fragiles au moment où ils ont besoin de nous. Agir contre la précarité énergétique et les mauvaises habitudes dans son logement, c'est s'appuyer sur une efficace complémentarité. Une conseillère médicale en aménagement intérieur peut faire beaucoup en une seule visite. Réapprendre à ouvrir ses fenêtres 5 minutes par jour, ce n'est pas non plus si anecdotique. Il faut retrouver ces gestes simples. Du côté du département, chacun l'aura compris, où priment les valeurs de solidarité humaine et territoriale, la pression est très forte, comme l'explique Jean-Luc Glaise. Là comme ailleurs, nous devons faire face au désengagement de l'État. L'abandon des contrats aidés nous a contraints, pour éviter le pire, à compenser leur financement. Sur les 200 qui étaient immédiatement menacés, nous en avons financé 130. Quant au logement social, l'État ne s'est pas contenté d'annoncer de mauvaises nouvelles, mais a rompu, là encore, ses engagements en cours. Il a diminué de 96 millions d'euros cet été les enveloppes du Fonds national des aides à la pierre. Ce n'est que la mobilisation sans faille du Conseil départemental, associé à Bordeaux Métropole et aux bailleurs sociaux, qui a presque sauvé la programmation 2017. Le département aura investi 24 millions d'euros cette année dans le logement social. Ce n'est pas neutre. Il n'est pas neutre non plus que, grâce à l'établissement public foncier, nous puissions accompagner les communes, les acteurs du territoire, pour lutter contre la spéculation et œuvrer à l'essor local du logement. Mais pour combattre efficacement toutes les fractures sociales qui pourraient affecter nos territoires, il est grand temps de mettre en place une concertation engageant l'État. C'est à ce prix que peut se concevoir une politique du logement juste et ambitieuse.
Cette page est illustrée de dessins ainsi légendés.
Non, désolé, on n'a pas assez de budget pour rénover.
Rassurez-vous, nous ne reproduisons pas les erreurs des années 60-70. On nous invite à faire pire.
Des pistes pour l'avenir ?
Interroger nos fonctionnements. Clarifier les politiques. Placer l'humain au cœur des projets.
Sensibiliser tous les acteurs concernés.
Logement social, les bailleurs en action. La baisse des aides personnalisées au logement APL et la pression qui s'ensuit sur les bailleurs sociaux, voilà qui risque de peser lourd sur les projets liés à l'habitat social. Le logement, avec des programmes ambitieux à travers toute la Gironde, contribue largement à l'aménagement équilibré du territoire. Autant de chantiers porteurs, mais demain, qu'en sera-t-il ?
À Castelnau de Médoc, Gironde Habitat a conduit le projet Grand Air Fort avec 16 logements, 6 semi-collectifs et 4 individuels au sein de la résidence Castelnéou et 6 habitats individuels dans la résidence Castelnovo. À Saint-Jean-d'Illac, l'abri familial a construit 4 logements en prêt social destinés à l'accession à la propriété. Ce type d'opération permet d'avoir un prix du mètre carré à 2 000 €, soit des remboursements mensuels de l'ordre de 490 €. Gironde Habitat a conçu, à la teste de bûche, 40 logements sociaux, mais aussi un foyer de jeunes travailleurs de 55 places et une micro-crèche de 10 places sur le site de l'hippodrome. Le projet associe la construction de 8 logements locatifs destinés aux jeunes à Gujan-Mestras, réalisés par Claire Sienne. La résidence BEN d'Aquitanis, à Pessac, rassemble 9 logements ossature bois avec jardin partagé. À Villeneuve-d'Ornon, Claire Sienne a construit la résidence Valden à Bardage bois avec 73 logements locatifs dans un environnement privilégié. L'école Saint-Romain de Blaye a trouvé une nouvelle affectation car Gironde Habitat vient d'y lancer une opération ambitieuse baptisée Barbara. 9 logements collectifs et individuels y ont été rénovés. 24 logements collectifs, 9 y ont été construits. C'est au cœur de la citadelle de Blaye que Gironde Habitat a lancé la rénovation de 9 anciens casernements de la rue Commandant Merle pour réaliser 6 logements, 3T1 et 3T3 avec jardin à l'arrière. Au Grand Parc, 530 logements des immeubles Gounod, Hendel et Ingres ont été modernisés en profondeur par Aquitanis, avec l'ajout de jardins d'hiver, mais aussi la création de 8 maisons sur les toits. La résidence Niwaki, à Ginko, à Bordeaux-Lac, réunit 90 logements, dont 50 en accession sociale à la propriété. L'opération de vente d'Axanis a été rendue possible grâce à Aquitanis. La résidence Florestine, de Gironde Habitat au Grand Parc, réunit 49 logements équipés d'un système de chauffage innovant, système QRAD, voire Gironde MAG numéro 113. Gironde Habitat a conduit à Libourne une très belle opération. La résidence Clémenceau réunit 9 logements locatifs au cœur du bâti ancien, avec le souci d'offrir aux locataires des prestations optimales. Claire Sienne a conçu, à Salbeuf, la nouvelle résidence Les Terres Douces. Cette opération a permis de proposer 25 maisons à la location. La résidence Les Folies, dans le quartier du Bois-Fleuri, réunit, à Lormont, 24 logements avec ateliers à destination des artistes. Axanis a vendu les logements à Aquitanis. À Bernoz-Bolac, la résidence La Fonderie a redonné vie à un ancien bâtiment. Gironde Habitat, en étroite collaboration avec la commune, a donné naissance à 6 logements, un T2, 2T3 et 2T4.
Les troisièmes journées girondines de l'Habitat, elles auront lieu les 14 et 15 mars 2018, de 9h à 17h, amphi Badinter et hall de l'immeuble Gironde. Cette année, la thématique est « Désir et Habitat », avec en grand témoin Maryse Vaugarny des ateliers d'écriture de la Maison Verte, le 14 mars au matin, après ouverture par le président Jean-Luc Glaise et la vice-présidente Martine Jardinet. L'après-midi du 14 sera consacré à des ateliers « Désir et Habitat ». Le 15 mars, 4 tables rondes se tiendront sur la prise en compte des désirs d'habitat avec les expérimentations, témoignages, réalisations girondines, françaises et au-delà. Notons aussi dans le hall de l'immeuble Gironde l'exposition « Vos couleurs, le quartier des rêves et des désirs » et du 5 au 16 mars l'exposition « Dextra Basic Space » conçue par Fanny Millard, espace de découverte de l'architecture par le livre objet. Pour recevoir une invitation, dgat-dhu@gironde.fr.
Point de vue de Martine Jardinet, vice-présidente chargée de l'habitat, logement et développement social.
C'est un coup d'arrêt brutal à la production de logements qu'inflige l'État aux bailleurs, aux acteurs du logement social et bien sûr aux départements. Prendre une telle décision sans concertation, c'est ne pas tenir compte des politiques et des engagements que nous avons pris en faveur des Girondins. Le logement est un élément essentiel de la cohésion sociale et territoriale. Il porte en lui les promesses d'égalité et de solidarité indissociables du pacte républicain. Le département, en 2016, a contribué au développement de l'offre locative avec la construction de plus de 5000 logements. C'est l'ensemble du parc immobilier des ménages qui sera touché, du parc social à l'offre privée. C'est tout cela qui est mis en péril, d'où notre mobilisation résolue contre ces mesures gouvernementales.
L'eau met la Gironde au défi. 126 km de littoral, le plus grand estuaire d'Europe, l'eau représente dans notre département un patrimoine naturel d'une exceptionnelle richesse. Elle est également une ressource qu'il importe plus que jamais de préserver et un vecteur de risque. État des lieux.
Chaque année, le département accueille 18 000 nouveaux habitants. Si cette attractivité est un atout incontestable, elle soulève cependant un certain nombre de questions liées à la gestion de l'eau. Celle de l'alimentation en eau potable, assurée à 98% par des nappes profondes, mais à un rythme de prélèvement supérieur au rythme de renouvellement naturel. Celle de l'assainissement des eaux usées qui augmente proportionnellement à la consommation. Celle des risques aussi, inondations et pollution notamment, qui sont amplifiés par le dérèglement climatique et la régression des zones humides. Autant de questions liées qui demandent une implication du département. Il s'agit bien de préserver la ressource en eau tout en répondant aux enjeux d'aménagement du territoire.
Gérer le risque d'inondation.
En Gironde, 229 communes sont concernées par le risque d'inondation. Arvers, pour partie située au cœur d'un méandre fermé de la Dordogne, est l'une d'elles. Sur une zone de 1200 hectares, nous devons gérer 13 kilomètres de digues et tout un réseau de jales, explique Jean-Marie Cotterelle, président de l'association syndicale autorisée ASA, des palus d'Arvers et de Génissac. Ce groupement de propriétaires privés a en effet pour mission, sous contrôle administratif de la préfecture, de prévenir le risque d'inondation par la création, la restauration et l'entretien de digues et autres ouvrages. En bord de rivière, poursuit-il, nous sommes à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer et seulement à 2,05 mètres dans les zones plus centrales. Pour mémoire, les crues de 2016 ont vu la Dordogne monter à plus de 5 mètres. Et par ici, il y a non seulement des cultures à protéger, mais aussi des habitations, des zones artisanales et commerciales. L'un des derniers gros chantiers en date remonte à l'été 2016. Une digue de plus de 180 mètres de long, haute de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, face à Libourne. Construite en lieu et place d'un simple muret, elle a été en partie financée par le département. Ce dernier attribue également des subventions pour des rénovations d'ouvrages comme cette porte à flot située sur une jale toute proche. Selon la marée, elle évite la pénétration de l'eau dans les terres ou au contraire facilite leur évacuation. Une régulation indispensable en cas de forte montée des eaux.
Traiter les eaux usées.
À Villegouge, voici deux petits étangs bordés de verdure que jouxte une étendue de roseaux. Qui croirait que l'on se trouve sur le site d'une station d'épuration ? Ce type d'installation se nomme une lagune. Son principe est d'envoyer les eaux usées dans des bassins successifs où vont sévir des micro-organismes, algues et bactéries notamment, qui dégradent les matières organiques en imitant le procédé naturel d'auto-épuration des lacs et rivières. Ici, en front sadé, la phase finale de l'épuration des eaux est assurée par une zone sableuse plantée de roseaux. Objectif, infiltrer l'eau et éviter les rejets. C'est l'une des plus de 60 installations sur lesquelles intervient Alain Le Boudet, technicien SATES, service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux, du département. Le cœur de sa mission, s'assurer de la fiabilité des contrôles effectués sur les stations d'épuration et assister techniquement les communes et intercommunalités. Des interventions majeures qui viennent en complément des financements apportés par le département. Ici, le procédé est rustique, explique-t-il. Contrairement aux stations d'épuration à boue activée, nous n'avons pas de réglage particulier à effectuer puisque c'est la nature qui fait le travail. En revanche, nous devons surveiller l'entretien car une lagune peut s'envaser à force de dépôt. Des plantes flottantes, comme les lentilles d'eau, peuvent aussi s'y développer, empêchant la photosynthèse indispensable à cet assainissement écologique. Des ragondins y élirent domicile et menacer le lagunage, alors que les liserons envahissent parfois les roseaux. Bref, la nature a ses lois, mais elle est quand même bien faite.
Point de vue d'Alain Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, gestion des risques et des ressources, et infrastructures routières.
Depuis de nombreuses années, le département se soucie de la question de l'eau, car nous savons que c'est une ressource extrêmement fragile. Il est de notre responsabilité collective et individuelle de la préserver et de la transmettre. C'est naturellement l'affaire des collectivités locales, mais aussi des citoyens eux-mêmes.
Comment réaliser des économies d'eau ? Tous les gestes simples pour préserver la ressource et alléger la facture sur j'économise-l'eau-sans-accent.org. Quelques chiffres. 80 mètres cubes d'eau prélevés dans les nappes chaque année pour chaque girondin. 253 stations d'épuration suivies par le département. Plus de 80 000 kits hydro-économes distribués aux girondins dans le cadre du projet MAC-EAU. gironde.fr/OEAU.
Plan Oméga. Premier résultat. 39 communes concernées et autant de réunions publiques, 2200 habitants rencontrés, le plan d'urgence 2016-2017 s'achève avec plus de 10 000 foyers et entreprises désormais connectés au haut débit. Passé cette étape, le département poursuit son engagement là où aucun opérateur privé ne voudrait le faire et lance la seconde phase du plan Oméga.
C'est en date du 14 avril 2016 que les élus du département de la Gironde ont décidé d'octroyer 3,2 millions d'euros pour réaliser en urgence la montée en débit des foyers les plus isolés sur 39 sites qui avaient été identifiés. En moins de 18 mois, 10 000 foyers ont pu voir leur débit Internet considérablement augmenter. Chaque fois, le département a pris soin de rencontrer les populations concernées pour expliquer, à l'occasion de réunions publiques, les enjeux et les travaux du plan Oméga. Ce plan entre, désormais, dans sa seconde et plus importante phase, le déploiement de la fibre optique à l'abonné. L'ambition est d'apporter sur l'ensemble du territoire girondin, à l'exception de la métropole bordelaise et de la ville de Libourne, le très haut débit par la fibre. Au total, ce sont pas moins de 410 000 foyers qui sont concernés. En termes d'aménagement du territoire et de services à la population, ce chantier est comparable à celui de l'électrification en son temps ou de la création des réseaux d'eau et d'assainissement.
2016-2017. Plan d'urgence 3,2 millions d'euros. 39 communes, 39 réunions publiques suivies par 2200 habitants. 10295 foyers raccordés. Et demain, 410 000 foyers à connecter, plus de très nombreuses entreprises hors métropole et ville de Libourne. 23 500 km de réseau à créer. Financement générateur de près 500 emplois. Ceux qui financent, investissement majeur de 650 millions d'euros, dont 230 millions d'euros investis dans les 5 prochaines années, portés par le département de la Gironde, les communautés de communes et d'agglomérations de Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et France Très Haut Débit.
Plan Oméga, premier bilan. Omé, Capian, Budos, ces communes ont fait partie du plan d'urgence 2016-2017 du département et sont depuis l'automne reliées à la fibre optique.
Témoignage de Xavier Bontemps, au clavier bien tempéré, sur la commune de Omé.
Facteur et accordeur de piano, Xavier Bontemps exerce à Omé depuis 11 ans. Passionné par les instruments anciens, cet artisan effectue des travaux de restauration, d'entretien et de réglage sur toute la France et parfois à l'étranger. Dès le départ, j'ai souhaité avoir un site internet sur mon activité, complété d'une page Facebook actualisée régulièrement. Ma communication professionnelle se fait ainsi. La plupart de mes clients me contactent par mail. Omé faisait partie des villages avec un débit internet des plus faibles et a pu bénéficier du plan d'urgence. Je passe mes journées à l'atelier, aux heures où le débit était à peu près convenable. Mais le soir venu, lorsque je souhaitais effectuer des recherches ou répondre aux mails, tout devenait plus compliqué entre débit très ralenti et perte complète du réseau. Le changement est arrivé à l'automne avec l'installation de la fibre optique pour les 196 foyers d'Omé qui désormais peuvent surfer à n'importe quelle heure. Facebook, Xavier Bontemps, au clavier-bientempéré.fr.
Témoignage de Marie-Pascale Bruchet et Olivier Molinati-Gall, bistrot et restaurant La Dame Speak à Budos.
Installé depuis 2 ans dans le village de Budos, à quelques kilomètres de Sauternes, Marie-Pascale n'y a pas cru lorsque le maire lui a expliqué que le débit internet était des plus faibles. Auvergnate d'origine, je n'imaginais pas devoir composer sans internet en arrivant en Gironde. Tout envoi de courrier avec pièces jointes était impossible. Dans son restaurant, La Dame Speak, qu'elle tient avec Olivier, il a fallu s'adapter. Plus problématique encore fut l'accès au téléphone. Celui-ci ne passant quasiment pas, il m'a fallu transférer la ligne du restaurant sur mon portable pour être sûr de recevoir les réservations. Mais depuis le début du mois d'octobre, ils font partie des 330 foyers de Budos concernés par le plan d'urgence de déploiement du Haut-Oméga qui viennent d'être migrés. Concerts, Saint-Patrick, soirées, jeux, tout devient plus facile à annoncer. Enfin, presque, car on a tellement été sans rien que l'on n'a plus l'habitude. Facebook, Bistro Resto Adams Peak et Bar Adams Peak.
Témoignage de Yannick Aran, prestations informatiques à domicile à Capian.
Une réinstallation complète de son système, le dépannage ou la maintenance de son PC, une installation de matériel ou de logiciel, tout cela relève des compétences de Yannick Aran et de sa société prestations informatiques à domicile. Mais que faire lorsque l'on est installé sur un territoire où plusieurs communes sont dépourvues de débit Internet? On s'adapte et l'on se montre patient. On travaille aux heures où les gens sont absents de leur domicile. Le réseau est alors bien meilleur. Mais le week-end est passé, 17 heures en semaine, tout devient laborieux. Avec le déploiement de plus de 5 km de fibre optique, les 304 foyers de Capian concernés par le plan d'urgence ont vu leurs habitudes totalement chamboulées. Nous ne faisons plus face à des coupures intempestives et avec une connexion constante autour de 8 MO, les mails avec pièces jointes partent sans délai. Nous pouvons téléphoner, regarder un film en haute définition, surfer sur Internet. Site Internet PIAD.
Point de vue de Mathieu Rouvert, vice-président chargé de la citoyenneté, relations avec les usagers, communication et accès numérique.
L'objectif du département est que chaque Girondine et chaque Girondin puisse bénéficier du très haut débit. C'est pourquoi elle se substitue au secteur privé défaillant. Cette volonté départementale prendra tout son sens dès cette année avec le cœur du plan Gironde Oméga qui consiste à amener la fibre optique à l'abonné.
girondomega.fr. Plateforme en ligne dédiée au plan Gironde Omega. Retrouvez ici toute l'actualité du déploiement du très haut débit en Gironde. Observatoire.francethd.fr. Consultez la couverture Internet actuelle en Gironde. Gironde numérique, structure publique créée par le département de la Gironde et qui fédère 27 communautés de communes et d'agglomérations, Bordeaux Métropole ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine. Les élus locaux y siègent. Pierre Ducoux, conseiller départemental de Pessac 1, en est le président. Gironde numérique a la responsabilité de la mise en œuvre des travaux. Il se charge de lancer les appels d'offres pour les chantiers d'équipement et de génie civil.
Insertion, avec ou sans S, des politiques, un engagement, des actions. Le département est reconnu comme l'acteur clé de la solidarité humaine et territoriale en Gironde. Ces politiques d'insertion permettent ainsi d'apporter aide et soutien à toutes celles et tous ceux qui sont dans la difficulté. Les accidents de la vie peuvent arriver à n'importe qui et il est essentiel de pouvoir se relever. Aide alimentaire, lutte contre l'illettrisme, appui à la création d'activités et à la mobilité, accompagnement sur le chemin de l'emploi, sont autant d'engagements concrets et tangibles. Zoom ici sur l'aide alimentaire qui va bien au-delà de la stricte distribution de denrées. Se nourrir.
Pas d'insertion possible si les problèmes du quotidien sont trop graves. Manger à sa faim, par exemple. Aussi, le département agit pour accompagner des structures agissant dans le secteur de l'aide alimentaire, comme les épiceries sociales et solidaires, le restaurant social ou encore la distribution directe d'aliments et des ateliers cuisine.
Restaurant La Marmite.
Créé en 2000 par Envol 33, La Marmite est un restaurant solidaire, original, dans lequel des clients défavorisés côtoient une clientèle ordinaire. La Marmite permet à des personnes en difficulté de déjeuner dans un restaurant traditionnel pour une somme modique. Du lundi au vendredi, un déjeuner complet est proposé pour 3 euros sous forme de bons de restauration acquis auprès d'associations adhérentes. 65 structures sur la métropole en font bénéficier les personnes qu'elles accompagnent. Environ 90% des clients bénéficient de ce service. Les 10% de clients restants étant facturés 11 euros, comme dans un restaurant classique. De 15 000 à 20 000 repas y sont servis annuellement. En 2016, le département de la Gironde a consacré 54 000 euros à la structure Service Gagnant gérant La Marmite, soit l'équivalent de 7 700 repas. La Marmite, Service Gagnant, 21 rue des Menus à Bordeaux, 05 57 95 96 08.
87 structures de distribution alimentaire.
La Croix-Rouge française, les Restos du Cœur, le Secours populaire, l'équipe Saint-Vincent de Paul de Libourne et les équipes Saint-Vincent de Bazas et Bordeaux, 20 épiceries sociales et solidaires soutenues par le département touchant près de 1200 familles, un restaurant social, La Marmite, porté par l'association Service Gagnant et Envol 33, une banque alimentaire distribue aux associations adhérentes et directement aux personnes l'été pour compenser la fermeture d'autres associations.
304 400 euros, c'est le soutien du département.
Apporté en 2016, aux structures suivantes œuvrant dans le champ de l'aide alimentaire Restaurant du Cœur, équipe Saint-Vincent-de-Paul du Bazadé, de Libourne et les équipes Saint-Vincent-de-Bordeaux et de Bazas, Croix-Rouge, Médecins du Monde, Banque Alimentaire, Secours Populaire et Services Gagnants.
Point de vue de Martine Jardinet, vice-présidente chargée de l'habitat, logement et développement social.
Agir en faveur du développement social, c'est accompagner chacune et chacun vers l'autonomie. Cela passe par l'accès au logement, par les dispositifs d'insertion, mais aussi par le retour au quotidien des habitudes sociales. Le temps d'un repas partagé en fait partie.
Les râteleurs au fourneau.
En pays foyen, l'association Les Râteleurs agit sur plusieurs fronts pour que les habitants se réapproprient les savoir-faire autour de la question alimentaire. Elle est une véritable ambassadrice du retour à un jardinage local, mais elle intervient aussi pour aider chacune et chacun à se familiariser à tous les bienfaits de la cuisine. Tiers lieux nourriciers, éco-pôle alimentaire et ferme multiservice, la structure bénéficie d'une reconnaissance qui va bien au-delà de Sainte-Foy-la-Grande. Associant en réseau les particuliers et les producteurs, elle répond à de nombreuses problématiques alimentaires. Brigitte Paganelli, coordonnatrice des râteleurs, explique. Nous avons mobilisé les associations, les collèges, mais aussi les collectivités locales pour mettre à disposition des habitants des cuisines équipées pour qu'ils puissent véritablement pratiquer une cuisine nourricière et durable. Par ailleurs, nous achetons et valorisons tous les produits de saison des producteurs locaux. De cette manière, nous contribuons à mettre en place des circuits courts, efficaces, diffusant des produits parfaitement sains. Éducation à la santé, lutte contre le gaspillage alimentaire, les râteleurs organisent aussi des ateliers de cuisine directement dans la rue. Ayant mis en place un groupe d'achat collectif, l'association a signé une convention avec le collège Élifor et les habitants peuvent ainsi occuper, hors temps scolaire, la cuisine pédagogique de l'établissement. À Sainte-Foy-la-Grande, autour de la préparation et de la dégustation des repas, se retrouvent des participants de tous les âges et de toutes conditions, y compris des personnes en difficulté ou fragilisées par les accidents de la vie. Chacun doit pouvoir s'investir selon ses envies et ses disponibilités, précise Brigitte Paganelli. Parmi les projets, des râteleurs, glanage et cueillette chez les particuliers s'organisent pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un débat sur la thématique du glanage est prévu le 9 janvier prochain à Sainte-Foy-la-Grande pour faire prendre conscience aux producteurs comme aux particuliers que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est possible. Signalons aussi, en lien avec la MDSI de Sainte-Foy et Clercienne, le projet de création de potagers dans la cour de la maison d'insertion, ouverts aux jardiniers qui le souhaiteront. Gagnant-gagnant donc.
info@lesrateleurs.org, site internet lesrateleurs.org.
Jardiner, cuisiner.
Les jardins alimentaires partagés cultivent l'envie de placer le jardin au cœur de la vie quotidienne. L'association Place au Jardin, créée en 2012 et issue de la dynamique de Terre d'Adèle, ADELES, vise à renforcer le lien à la terre et le lien aux autres par le biais de la multiplication de jardins collectifs ici ou là. Les jardins sont animés par des habitants ou des acteurs qui deviennent peu à peu jardiniers en ville et viennent adhérer à l'association pour y créer un réseau de rencontres, d'échanges et de solidarité. Place au jardin a acquis des compétences multiples depuis 2009, en accompagnant des jardins très différents, en centres sociaux, en foyers d'hébergement, Bordeaux, Pessac, dans des écoles, Bègles, Bordeaux, Aisines, Lormont, Saint-Aubin, Saint-Médard, dans le cadre des juniors du développement durable de la métropole, sur des jardins de quartier, Senon, Pessac, Mérignac, Le Bouscat, ou des jardins familiaux, Pessac, sur des sites d'habitat social, Aquitanis, Domofrance, Gironde Habitat, et sur des espaces de maraîchage collectif, Pessac. Aide du département, à Place au Jardin, cette année, 30 000 euros.
Site internet, place au jardin, eau et jardin au pluriel, le tout en un seul mot, .org. Point de vue de Denise Grélard-Nédélec, vice-présidente chargée de l'insertion.
Une politique de développement social est efficace lorsqu'elle prend en compte l'ensemble des problématiques que rencontre une personne en difficulté. Notre ambition, c'est d'agir dans la globalité. Bien se nourrir, cela fait partie de la reconquête d'un équilibre personnel.
Près de 8000 tonnes par an de denrées alimentaires sont distribuées par les associations caritatives et 97 936 personnes en bénéficient.
À la découverte, tête de Gironde, Thomas Bouda, sportif millésimé. Après une année 2017 pleine de promesses et marquée par son entrée sur le Tour de France, le jeune cycliste girondin Thomas Bouda entame une percée sur route.
À presque 24 ans, il a déjà accompli plusieurs de ses rêves. Issu d'une famille de cyclistes et de viticulteurs, Thomas Bouda est l'un des grands espoirs du sport français. C'est son grand-père, Joseph Sigana, lui-même un ancien du Tour de France 1954, qui l'initie au vélo avant même que le garçon ne sache marcher. Le virus ne le quittera plus. Sa passion le mènera jusqu'au plus haut niveau. Champion du monde de l'Omnium, course sur piste combinant 6 épreuves en 2014, 5e aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ce n'est que le début de l'aventure. Il s'est frotté l'été dernier à son premier Tour de France. Grosse responsabilité. Ça concrétise un espoir d'enfant. C'est un vrai plaisir et une fierté. Le Tour est vraiment une course à part. Le peloton roule beaucoup plus vite que tout le reste de la saison. Il y a énormément de tensions. Maintenant, mon ambition serait d'y performer et pourquoi pas de gagner une étape, un jour. Modeste, Thomas Bouda se laisse un peu de marge de manœuvre et sait qu'il a devant lui de beaux challenges avec de nouvelles victoires à la clé, mais aussi pas mal de pression. Professionnel depuis presque 4 ans, le coureur de l'équipe Direct Énergie s'est fait une place. Après s'être bâti un joli palmarès sur piste, il délaisse désormais les vélodromes pour se consacrer exclusivement à la route. J'aime me fixer des objectifs. C'est moi qui hérite du statut de leader au sein du groupe cette saison. C'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi ce qui me motive. Compétiteur dans l'âme, le jeune sportif installé à Gradignan est un travailleur acharné, aussi doué pour le cyclisme que pour les études. Il a ainsi décroché un bac S avec mention à 17 ans et enchaîne avec une classe préparatoire. Mais c'est le moment où sa carrière sportive décolle et il devient alors compliqué pour lui de s'engager sur tous les fronts. Il prend donc la décision difficile d'arrêter ses études. J'ai pu le faire car j'étais soutenu par mon entourage. Le noyau dur, c'est très important. Outre ses qualités de vitesse, Thomas Bouda s'est construit un mental solide qui va puiser dans ses racines et l'appui de son premier cercle, ses parents et son frère, cycliste, lui aussi. C'est un sport difficile, rappelle-t-il. Il y a un gros volume d'entraînement et il faut faire beaucoup de sacrifices. Passion du vin. Pas facile, notamment, de rester sérieux quand les autres sortent profiter de leur jeunesse. Mais le champion girondin revendique aussi une vie en dehors du vélo. Et sa carrière cycliste ne l'empêche pas de déguster occasionnellement une bonne bouteille avec ses amis. Passionné d'œnologie, Thomas Bouda tient ce goût de ses parents, propriétaires d'un vignoble dans les Graves. Il sait que la vigne l'attend et qu'il sera un jour comblé de répondre à l'appel. J'ai toujours su que je reprendrais le domaine, et cette certitude m'a permis aussi de m'autoriser certains choix et de pouvoir me consacrer à ma carrière sportive. Pour l'heure, il reste fixé sur ses objectifs avec, pourquoi pas, un final en apothéose au JO de Paris 2024.
Histoire. Grandir de la Renaissance au baby-boom, l'enfant qui pleure, l'enfant qui rit. Le bien-être et la protection de l'enfant mobilisent aujourd'hui les pouvoirs publics et sont l'objet de lois et de débats. Autrefois, cette place n'était pas aussi évidente. Présentante originaux d'archives en grand nombre, photos et objets, l'exposition des archives départementales explore ces enfances d'avant-hier à hier.
Ambitieuse initiative que celle des archives départementales. Retracer l'histoire des enfants girondins et montrer l'évolution de leur place dans le monde des adultes depuis le XVIe siècle jusqu'aux années 1960, à l'époque foisonnante des Trente Glorieuses. Le résultat, c'est une exposition passionnante, inaugurée le 24 novembre dernier, et déjà très fréquentée, organisée autour de deux grandes thématiques, naître et grandir, et affronter et subir. Sous le bandeau « Naître et grandir », le visiteur peut découvrir, à travers documents, photos et objets, les thèmes de la naissance, de la place du petit enfant au sein de sa famille, des apprentissages fondamentaux, avec l'école en bonne place, ou encore celui des loisirs. La partie « Affronter et subir » présente un propos plus grave. Rendez-vous est donné autour des enfants abandonnés ou sans famille, de la santé et des maladies, mais aussi autour de l'enfance au travail avant que la loi ne vienne l'interdire. En outre, un témoignage de premier plan est apporté sur le statut de l'enfant en tant que personne juridique, qu'il s'agisse de sa position de victime ou de coupable au regard de la justice. Ces incandescents témoignages, les documents d'archives, les objets et les photographies d'époque qui sont donnés à voir confèrent à l'exposition un caractère très vivant. Pour peu que l'on prenne le temps de s'arrêter sur telle ou telle étape de ce parcours, il est alors facile de prendre la mesure de ce qui rapproche et de ce qui sépare l'enfant d'hier et celui d'aujourd'hui. La lutte contre la dénatalité dans les années 1930, le statut de la Société protectrice de l'enfance en 1875, qui procure des nourrices aussi bonnes que possible, la photo d'une crèche de la Bastide à la fin du XIXe siècle où les enfants sont parqués ensemble, le manuel de morale et d'instruction civique de 1913, ou encore une édition originale du Jeu des Mille Bornes datant de 1954 et conçue par Edmond Dujardin, entre autres points forts du thème « Naître et grandir ». D'incandescents témoignages marquent la partie « Affronter et subir » de l'exposition. Citons, sans pouvoir être exhaustif, les registres des enfants abandonnés sur lesquels figurent de petits morceaux de tissu comme autant de marques d'identité usées par le temps, mais habilement restaurées par les archives départementales, les photos du domaine Désinoff, le texte de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, les usines ou les ateliers. Notons encore au chapitre de la santé cette brochure de la Croix-Rouge titrée « Soyons propres pour être forts », ces photos des crèches de l'hôpital des enfants de Bordeaux ou du sanatorium maritime d'Arcachon. Comment ne pas être touché par ces textes qui rapportent combien les enfants ont aussi été victimes des violences de l'histoire et des vicissitudes sociales? Le dernier portrait d'un enfant qui mourra en camp de concentration. Plus loin, ce texte d'abjuration d'une fillette en 1685, alors que les parents se menaçaient de se voir retirer leur enfant, si, protestant, ils n'adoptent pas la religion catholique, ou, plus proche de nous, ces images de la maison pénitentiaire pour filles de Cadillac, qui, encore ouverte au début du XXe siècle, portait le nom d'école de préservation. De l'enfant qui pleure à l'enfant qui rit, les archives départementales de la Gironde brossent donc un portrait sans concession de ces enfances, tissant des liens avec la nôtre, Madeleine de Proust, amère comme le thé des grands et sucrée comme le gâteau du jeudi après-midi.
Archives départementales de la Gironde, 72, cours Balguerie-Stutenberg, 33 000 Bordeaux. Entrée libre et gratuite jusqu'au 30 mars 2018, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Samedi et dimanche, de 14h à 18h. Visite guidée chaque mardi à 10h et le dimanche à 15h. Voir agenda page 34. Téléphone 05 56 99 66 00. Archives au pluriel .gironde.fr.
Patrimoine. Phare de Gironde. Coup de projecteur sur des trésors du patrimoine. Il veille sur l'estuaire et guide les marins depuis parfois des centaines d'années. De la pointe du Verdon à celle du Ferret, 6 phares majeurs jalonnent les côtes de la Gironde. Accessibles à pied ou en bateau, ils portent, chacun à leur manière, un flambeau de notre histoire. Pour mettre en lumière ces trésors du patrimoine, le département crée actuellement une route des phares, à sillonner dès cet été. À découvrir ici en avant-première. grave témoin de la vie des gardiens.
Il abrite une collection d'instruments liés au phare de Cordouan, des photos retraçant la vie si particulière des gardiens, ainsi que des maquettes des phares de Gironde, encore en fonctionnement. Situé sur la Vélodyssée et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le phare est une des étapes essentielles de ces deux parcours. À voir également le petit phare de Saint-Nicolas tout près. Phare de la Pointe de Grave, 2 allée du Sémaphore, 33123 Le Verdon-sur-Mer, téléphone 05 56 09 00 25, adresse e-mail contact@asso-cordouan.fr.
Pourtant, en devenir.
La commune compte deux phares. Si le premier est inaccessible car utilisé par l'armée, le second, situé en pleine forêt, est inscrit depuis 2009 aux monuments historiques. Il n'est pas encore ouvert à la visite, mais un projet de rénovation est en cours. Le phare fonctionne aujourd'hui de façon automatisée. On peut s'en approcher, à pied ou à vélo, à partir de l'étang d'Ourtin.
Cordouan, le roi des phares.
Majestueux, il règne sur la façade atlantique depuis 400 ans. Cordouan a d'ailleurs été surnommé le roi des phares ou encore le Versailles de la mer. Contrairement à ce que raconte la légende, il n'est accessible qu'en bateau, et la balade relève d'une belle aventure. La traversée se termine à pied, à travers les rochers, parfois glissants, et les bancs de sable. Sur place, un gardien assure la visite du plus vieux phare de France en activité. Avis aux sportifs, l'ascension compte 301 marches. Phare de Cordouan, 33123, Le Verdon-sur-Mer, téléphone 05 56 09 62 93, adresse e-mail phare-de-cordouan.fr.
Patiras, sentinelle des îles.
Situé sur la pointe nord d'une île de l'estuaire de la Gironde, le phare de Patiras témoigne des aventures des marchands du XIXe siècle qui rentraient des colonies, chargés de biens précieux mais parfois porteurs de fièvres contagieuses. Le phare a guidé les navires pendant plus de 100 ans dans les chenaux de la Gironde. Aujourd'hui inactif, il offre une vue imprenable sur le territoire médocain et le Vérou Vauban. La citadelle de Blaye, le fort Pathé et le fort Médoc, un triptyque unique en France. Phare de Patiras, île Patiras, port de plaisance de Pauillac, 33250 Pauillac. Téléphone 05 56 39 27 66. Adresse e-mail contact@gensdestuaire.fr. Site internet refuge de Patiras en un mot.com.
Cap Ferret pour la vision panoramique.
Elle se gagne à la force du mollet après une ascension de 258 marches, mais vaut le coup d'œil. La vision panoramique qui s'étend de l'océan à la dune du Pilat est une des plus belles du département. Les différents étages de ce phare d'inspiration art déco sont rythmés par une exposition interactive qui raconte l'évolution de la cartographie marine. Phare du Cap Ferret, place Souchet-Valmont, rue de la Poste, 33970, Lège-Cap Ferret. Office de tourisme de Lège-Cap Ferret. Téléphone 05 56 03 94 49. Adresse e-mail communication-phare au singulier et en un mot @lège-capferret.com. Site internet phare-du-cap-ferret.com.
Richard, le plus sauvage.
On y accède par la route du Verdon. Puis on emprunte un dédale de chemin qui sillonne les ports de l'estuaire. Le phare de Richard domine les plus beaux carrelés de Gironde et veille sur un paysage sauvage, de chenaux, de marais et de haies de tamaris. Abandonné par ses propriétaires, il a été racheté en 1988 par la commune de Jau, Dignac et Loirac, qui l'a réhabilité. Sur place, une exposition raconte l'histoire de ce petit phare sauvage et celle des ostréiculteurs du Médoc depuis l'époque gallo-romaine. La dégustation d'huîtres et de mise. Passe du Phare, estuaire de la Gironde, rive gauche 33590, Joux, Dignac et Loirac, téléphone 05 56 09 52 39, adresse e-mail assoprhaderichard@orange.fr, site internet phare au singulier-richard comme le prénom.com.
Producteur de Gironde, David et Sabine Durand, pêcheurs de tradition. À Sainte-Terre, comme d'autres sur la Garonne et la Dordogne, David et Sabine Durand maintiennent vivante la pêche traditionnelle de la lamproie, un animal méconnu au-delà des frontières girondines, mais qui constitue chez nous une véritable institution gastronomique. Un animal précieux au niveau patrimonial, Jacqueline Rabic, grand maître de la confrérie de la lamproie.
La lamproie existe depuis des millions d'années. C'est donc un animal précieux au niveau patrimonial qu'il nous faut conserver. Depuis 1995, notre confrérie a pour objectif de faire la promotion de ce sujet, très connu en Gironde mais peu ailleurs, sur le plan environnemental et gastronomique. Nous participons à la fête de la lamproie de Sainte-Terre. Nous avons également notre propre fête le 11 février. Nous proposons des stages de cuisine et, tous les 3 ans, nous réunissons des scientifiques pour une université. Le département a apporté une aide à la confrérie de la lamproie de 1 500 € en 2017. Confrérie de la lamproie, Joël Duporge, mairie de Sainte-Terre, 12 avenue du Général de Gaulle, 33 350 Sainte-Terre, mairie.sainte-terre@wanadoo.fr.
L'animal est un peu étrange. Avec son corps serpentiforme et sa bouche ovale emplie de dents, son apparence peut impressionner, voire rebuter certains. En terre girondine, cependant, la lamproie est une véritable institution. Une part d'histoire même, affirme Sabine Durand. C'est un animal aquatique qui existe depuis 450 millions d'années sans avoir évolué, explique cette femme de pêcheur, et dont la chair au goût unique est courue des fins gourmets. Cuisinée à la bordelaise, voire notre recette, elle constitue un peu la madeleine de Proust de chez nous qui rappelle les grandes tablées familiales de l'enfance. Fin de citation. Pêcheur depuis 3 générations. Comme son père et son grand-père avant lui, son mari, David, pêche la lamproie depuis 23 ans à Sainte-Terre. Nous sommes sur un pan de rivière qui connaît encore des effets de marée. On y trouve donc des poissons migrateurs. Au Moyen-Âge, on y pêchait déjà le saumon et la lamproie, et cette pêche traditionnelle a perduré, raconte Sabine. Ces dernières années, cependant, certaines espèces migratrices, comme le saumon ou la louse, se raréfient, entraînant dans le même temps une baisse du nombre de pêcheurs. Ils ne sont plus que 42 sur la Dordogne et la Garonne, explique Sabine, contre 150 il y a 15 ans. On ne peut plus vivre que de la pêche, regrette David, qui dirige en parallèle une entreprise de charpente. Pour faire face, eux ont choisi en 2012 de vendre la lamproie cuisinée à la bordelaise, au loupiac ou en rillette, puis d'ouvrir une boutique de vente et une salle de dégustation. Nous avons avancé petit à petit, précise David. Mais quand on voit le résultat et la demande, nous regrettons de ne pas l'avoir fait plus tôt. Durant la saison, de décembre à la mi-mai, le couple ne compte pas ses heures. « Nous n'avons plus d'amis pendant 6 mois, plaisante Sabine, mais cela nous passionne. » Elle a d'ailleurs arrêté en février 2017 son propre métier, dans la formation et l'insertion professionnelle, pour développer une activité de ferme pédagogique. Une façon pour eux de partager cette passion et de faire en sorte que cette tradition girondine perdure.
Le Cabestan, ferme du pêcheur, deux ports pétors, Lavagnac, 33 350 Sainte-Terre, 05 57 47 17 79, lamproie.fr. Fête de la lamproie de Sainte-Terre, 28 et 29 avril 2018, fête de la lamproie.fr.
La recette du pêcheur, la lamproie à la bordelaise.
Choisir une lamproie de 1,2 kg. Après l'avoir ébouillantée 3 secondes, la racler, la rincer à l'eau froide et l'essuyer. Couper la lamproie en morceaux de 5 cm au-dessus d'un récipient contenant un fond de vin. Laisser couler le sang dans le récipient et enlever la tripe centrale. Faire revenir 8 blancs de poireaux de 5 cm. Faire bouillir 1 litre de vin si possible de l'année. Saler, poivrer, ajouter 2 morceaux de sucre, une feuille de laurier et un brin de sarriette. Laisser mijoter à feu doux. Mettre la lamproie et le mélange de sang et de vin. Laisser mijoter 3 heures à feu doux. Laisser reposer et recommencer la cuisson à feu doux 3 heures sans couvrir ni remuer. Servir la lamproie avec des tranches de pain grillées aillées.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires.
Groupe socialiste, bien géré pour un projet politique de gauche ambitieux et innovant.
Chef de file des solidarités humaines et territoriales, les départements sont paradoxalement de moins en moins soutenus par un gouvernement plus péremptoire et autoritaire que bienveillant et attentif aux Françaises et aux Français. Si on ne peut que déplorer cette indifférence, force est de constater que le Conseil départemental de la Gironde et sa majorité socialiste relèvent le défi sans sacrifier ses principes. Agir pour toutes et tous. Une fois encore, l'agence de notation Standard & Poor's attribue la meilleure note qu'une collectivité territoriale puisse obtenir, faisant de la Gironde le deuxième département de France le mieux géré. Dans le même temps, notre institution a été distinguée par le prix du projet Open Data pour le système d'aide à la décision 2017 pour son outil d'exploration de ses comptes administratifs permettant à chaque habitant de Gironde de s'informer en toute transparence sur les finances de la collectivité. Une véritable innovation citoyenne. Chacun peut ainsi découvrir que notre département assure ses compétences obligatoires avec efficacité et précision grâce à des agents exemplaires, mais également que ces élus socialistes ajoutent le sens et les convictions du projet politique pour lequel ils ont été élus. Agir au plus juste pour le plus grand nombre, en apportant des réponses différenciées en proposant des services publics de qualité et innovants. L'innovation sociale sera ainsi l'un des grands rendez-vous des prochains mois. Pour ne pas renoncer à d'autres possibles, la Gironde, sous l'impulsion de son président Jean-Luc Glaize, a en effet pris l'initiative, avec 7 autres départements, de réfléchir et d'expérimenter sans tabou et sans parti pris la faisabilité du revenu de base. D'autres départements ont depuis rejoint ce groupe moteur, amplifiant ainsi ce mouvement progressiste. Bien sûr, cela demande du travail et de l'humilité afin de concilier l'incontournable contrainte budgétaire et l'impérieuse nécessité de faire avancer un projet politique résolument tourné vers l'humain. Le gouvernement combine gestion intransigeante pour les plus défavorisés et politique favorable aux plus aisés. Réduction des APL et du financement des logements sociaux, suppression de l'impôt sur la fortune, suppression de la taxe d'habitation, cadeau d'un jour mais poison demain lorsque nos communes ne pourront plus investir pour votre quotidien, sont des exemples parmi d'autres. À l'inverse, notre majorité porte des politiques ambitieuses, juste et de qualité. C'est bien là le sens de notre engagement d'élus responsables et engagés à gauche. Groupe politique socialiste, 05 56 99 35 78, groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur groupe-gironde.fr.
Europe Écologie Les Verts, cap sur 2018.
L'année 2017 s'achève et nous arrivons bientôt à mi-mandat. L'occasion pour le groupe écologiste de dresser le bilan de son action au sein de la majorité départementale. Ces derniers mois auront été marqués par l'évolution de la vice-présidence aux mobilités d'Anne-Laure Fabre-Nadler, qui a ainsi pu améliorer des ambitions de la politique relative aux aires de covoiturage en Gironde. Laure Curval, déléguée à la transition et précarité énergétique, pérennise ses actions au sein du département, à l'image de l'opération Cocon 33. Enfin, Stéphane Saubus, président de la commission Eau et Déchets, continue son travail actif sur la mission Aménage Eau. En 2018, notre engagement pour que l'écologie et le développement durable demeurent au cœur des politiques départementales girondines restera intact. Europe, Écologie Les Verts, 05 56 99 67 03, mail Betty-Piccioli, Betty-Piccioli, @gironde.fr. Élu au pluriel -gironde.eelv.fr, facebook.com/eelvcdgironde, Twitter @élu-eelv-8cd33.
Gironde Avenir. Jacques Mangon, conseiller départemental du canton de Saint-Médard-en-Jalles.
Quelles sont vos priorités pour le canton de Saint-Médard-en-Jalles?
Plus de 50 000 habitants résident sur ce canton, situé à l'extrémité nord-ouest de la métropole et à 15 km de Bordeaux-Centre. La question de la mobilité est donc cruciale. Dans ce domaine, le projet d'extension du tram jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles est incontournable. Il est également urgent de faire avancer le dossier de la déviation du Taillant Médoc. Par ailleurs, il est impératif de conforter les structures sociales, les EHPAD, nos épiceries solidaires, l'aide à domicile en Haut-Médoc, ADHM, notamment implantée sur le canton. Je suis vigilant sur l'accueil des nouveaux habitants qui doivent pouvoir bénéficier de logements de qualité. Il faut travailler sur le foncier pour corriger les excès du marché immobilier.
Vous êtes aussi vice-président de Bordeaux Métropole, en charge de l'urbanisme et de la politique foncière. Quelle est votre vision du lien entre la métropole et le département?
Je suis convaincu que l'attractivité de Bordeaux bénéficie à l'ensemble de la Gironde. Ces deux institutions doivent travailler ensemble, notamment en matière de transport. Il ne doit pas y avoir d'antagonisme entre la métropole et le département.
Quel vœu formulez-vous pour le département et ses habitants en cette nouvelle année?
J'espère que la Gironde va poursuivre son développement dans le respect de la nature et de la qualité de vie des habitants. Je souhaite aux Girondins de vivre dans une société plus fraternelle et plus épanouissante. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, gironde-avenir.fr, 05 56 99 55 87 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook.
Front National. Une question gênante? Coupons le micro.
Au mois de juin 2017, le journal L'Express affirmait qu'au moins 6 vice-présidents avaient fait embaucher au moins un proche au conseil départemental sans passer par le concours de la fonction publique. Cette pratique des emplois familiaux, largement critiquée notamment avec l'affaire Pénélope Fillon, m'a donc motivé à demander des explications lors de la dernière séance plénière. Le micro me fut tout simplement coupé avant de pouvoir terminer mon intervention. Les Girondins, dont nombreux vivent dans la précarité, devront donc prendre sur eux de savoir que leur argent est à la disposition des pratiques scandaleuses du PS et de ses amis, tout cela avec la bénédiction de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental et coupeur de micro. Grégoire de Fournas, Front National, retrouvez-moi sur Facebook et sur fn-medoc.fr.
Debout la France, le pays avant les partis.
Pourquoi ne pas bâtir un programme commun pour toute la droite, rassemblant aussi ceux qui ont les mêmes idées, dépassant les clivages partisans? Un beau programme qui serait l'alternative crédible face à un duel Macron-Mélenchon aux prochaines élections présidentielles. La plateforme de consultation participative Les Amoureux de la France recueille toutes les propositions pour élaborer un programme dans l'intérêt majeur de la France. Une recomposition politique est possible et souhaitable. Souvenons-nous, en 1972, du rapprochement communiste-socialiste. À notre tour, faisons une coalition des droites et même au-delà, car c'est ensemble, nous serons plus forts pour gagner pour la France. Sonia Colmain, Debout la France, 06 07 69 59 60. Agenda. Le département les soutient. Voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde.
Histoire.
Dans le cadre de son exposition Enfance, les archives départementales de la Gironde proposent nombre de rendez-vous culturels et de conférences à vivre sans modération. 13 janvier 15h, pièce de théâtre carnet d'une drôlesse du port de la Lune de Chantal Galliana. 20 janvier 15h, présentation du livre « Mauvaise graine, deux siècles d'histoire de la justice des enfants » textuel 2017, par les auteurs Véronique Blanchard et Mathias Gardet. 27 janvier 15h, projection du film « Des fleurs sur les rochers » présenté par Franck Lalanne, président de l'association girondine d'entraide des pupilles de l'État. 3 février 15h, conférence Michel de Montaigne, une enfance en Périgord par Anne-Marie Cocula, professeur émérite d'histoire moderne, Université Bordeaux-Montaigne. 10 février 15h, spectacle musical dans la valise de Bobby à partir de 5 ans d'Agnès Doherty. 3 mars 15h, présentation de l'ouvrage L'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel 1786-1917, Tours, presse universitaire François Rabelais, 2017. 17 mars 15h, lecture de contes sur l'enfance par André Mellet. 24 mars 15h, table ronde sur le statut de l'enfant coordonnée par Adeline Goutenoir, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, présidente de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Archives au pluriel .gironde.fr, téléphone 05 56 99 66 00.
Chanson. Du 12 janvier au 3 février à travers la Gironde. Accueilli en résidence de création au début du mois de janvier à la ruche de Socat, Désolas part ensuite en tournée en Gironde. Dans le cadre des petites scènes de l'IDAC, venez découvrir une chanson française rythmée, en mouvement, urbaine et poétique. Sur une musique fine et nuancée, l'humour est aussi de la partie. IDAC.net.
Spectacle labellisé Petite scène, en partenariat avec le département de la Gironde et l'IDAC.
Santé.
22 janvier de 18h à 23h, Bordeaux Utopia. Mon cerveau en bonne santé, soirée thématique, ouverte au grand public, organisée par l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement. Conférence, une dynamique régionale sur le bien vieillir, en présence du Conseil départemental de la Gironde, de l'ARS et de la région Nouvelle-Aquitaine. Projection du film Style Alice 2015, débats et discussions, intervention de Jean-François Dartigues, professeur de santé publique à Bordeaux, et Françoise Forette, professeur de gériatrie, directrice d'ILC, International Longevity League, France, auteur du livre « J'ai choisi de bien vieillir ». Accès libre dans la limite des places disponibles, retrait des places possibles à l'accueil du cinéma Utopia, à partir du 12 janvier.
Cinéma à Blaye. Mercredi 24 janvier. Dans le cadre du festival « Les toiles citoyennes » destinées aux collégiens de la Haute-Gironde, le public âgé de moins de 25 ans, scolarisé ou non, est invité à assister à la projection du film « Le brio d'Ivan Attal » à 14h au cinéma de Blaye. Cinéma de Blaye-Zoé sans accent-trop.fr.
Nature.
Dimanche 28 janvier, Bourideis. De Capcieux à Bourideis, accompagné d'un ornithologue de la Ligue protectrice des oiseaux, venez observer les grues cendrées circulant de leur lieu d'approvisionnement à leur dortoir. Et profitez-en pour goûter la gastronomie landaise,
Rendez-vous à 10h devant l'église de Bourideis. Attention, place limitée à 20 personnes. Covoiturage organisé sur place. lpoaquitaine.org.
Cinéma à Arcachon et à la Teste de Buch.
Du 26 janvier au 4 février, voici la 8e édition du Festival international Ciné sans frontières qui propose cette année pas moins de 38 films en version originale, sous-titrés avec un regard tout particulier porté sur le cinéma nordique. Venez découvrir ou redécouvrir des films venus du froid, du Danemark, de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède. Pour l'occasion, des ateliers de découverte des métiers du cinéma sont organisés à destination des jeunes le samedi 27 janvier. cinesansfrontieres.jimdo.com.
Trail et marche.
Du 27 au 28 janvier à Ostens. Le domaine départemental d'Ostens accueille la nouvelle édition de Ostens Trail, organisée dans le cadre du challenge des sports de nature. Trail, marche nordique, mais aussi épreuves ouvertes aux enfants, l'événement qui s'adresse au grand public promet de belles surprises, mêlant découverte des pratiques sportives, goût du challenge et convivialité privilégiée. Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder. Raid Ostens Aventure en un seul mot.com.
Création d'entreprise.
Du 5 au 9 février en Gironde. Vous avez un projet de création d'entreprise ? Vous pouvez participer aux ateliers de l'ADI. Vous saurez tout sur la création, mais aussi sur le financement de votre projet et pourrez assister à des webconférences gratuites. Grâce à l'ADI, il faut le savoir, plus de 200 personnes en France retrouvent un emploi chaque semaine en créant leur entreprise. Retrouvez un événement près de chez vous. rdv-adi.org/événements au pluriel. Et sans accent.
Tradition.
Certifié label rouge depuis 1997, la race bazadaise fait la fierté du terroir sud-gironde. Cette belle race bovine est sélectionnée dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s'étend du sud du département à une partie des Landes. À Bazas, les bœufs gras sont donc mis une nouvelle fois à l'honneur avec un défilé dans les rues de la commune, animation et dégustation sont au programme. Pareilles fêtes sur cette thématique ont également lieu à Capsieux le 4 février et à Grignols le 7. Bazas.fr.
Cinéma à Bazas, L'Aréole et Montségur.
Mercredi 7 février, dans le cadre du festival Les Toiles Citoyennes, destiné aux collégiens du grand territoire Sud-Gironde, le public âgé de moins de 25 ans, scolarisé ou non, est invité à assister à la projection du film Le Brio d'Ivan Attal à 14h au cinéma Le Vox à l'Aréole. cinerex-l'aréole.com.
Chanson folk.
Du 2 au 31 mars à travers la Gironde. Après sa résidence de création à l'accordeur de Saint-Denis-de-Pile, Télégramme part en tournée dans le cadre des petites scènes de l'IDAC. Le groupe pratique une musique folk, rock, délivrant de multiples atmosphères magnifiquement portées par les guitares steel et électriques, le violon, la contrebasse. Les plaies de la vie, le chaos du monde, mais aussi l'ultra-moderne solitude et la sensualité d'une étreinte, sont chantées d'une manière poétique et crue. À ne pas manquer, idac.net. Spectacle labellisé « Petite scène » en partenariat avec le département de la Gironde et l'IDAC.
Création. Du 3 au 4 mars, Talence. Venez assister à la nouvelle édition du Salon de créateurs « Voir et avoir » dans le cadre du château de Thouars à Talence. De nombreux passionnés ont à cœur de partager leur savoir-faire avec le public le plus large possible. Talence événement au pluriel et sans accent, .fr.
Architecture.
Du 24 au 25 mars, Bordeaux. Les architectes conseillers du CAUE de la Gironde vous accueillent au Salon de la Maison Neuve à Bordeaux au Parc des Expositions. Parce que l'acte d'achat ou de faire construire n'est pas anodin, parce que le temps de la réflexion est nécessaire pour être bien chez soi sans mauvaises surprises et désagréments, les architectes répondent à toutes vos questions. Techniques, juridiques, énergétiques, etc.
Toute l'année, vous pouvez aussi les rencontrer gratuitement dans les 63 points de permanence répartis sur toute la Gironde. caueegironde.com. Gironde Mag, le magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71 223 33 074 Bordeaux CEDEX. Téléphone 05 56 99 33 33. Directeur de la publication Frédéric Duprat. Rédacteur en chef Didier Beaujardin. Coordination Laurence Tauzin. Rédaction Carole Ratier, Laure Espieux, Elisabeth Guignot-Lebert, Amélie Colc, Gwenaëlle Goyer, Muriel Joly, Didier Beaujardin, Laetitia Soleri, Sophie Dussaussois, Stéphanie Coy. Crédit photo. A2PEM, Résidalia, Goyer, M. Joly, J'adore ce que vous faites. O, Panier des touches, Punch Memory. A, Clotis, P. Ruot, Claire Sienne, Gironde Habitat, Aquitanis, L'Abri Familial, L. Soleri, S. Le Clésio, Les Râteleurs, Cépage, N. Lewis, Place au Jardin, Archives Départementales, D. Romazeille, Gironde Tourisme, Papier FCS Recyclé 100%, Imaille Graphique Laval, Dépôt Légal Apparition, Tirage 559 500 exemplaires, ISSN 1141 59 32 Gironde Mag, et distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez vous aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24. Ce numéro de Gironde Magazine se termine en quatrième de couverture sur un message concernant la sécurité routière. La photo représente une série de virages débouchant sur un giratoire. En haut de cette photo, un encadré noir avec ce texte. Ici, Lucie a envoyé son dernier message.
80 morts par an sur les routes de Gironde. Changeons nos comportements.